comme j'ai vu un frère dans le sacerdoce, j'ai dit ça serait bien qu'on réponde à deux voix. Parce qu'on peut entendre aussi, c'est intéressant d'entendre deux échos différents, comment ça résonne les questions. Moi j'aime bien parce que je trouve que l'Église elle est comme ça. Elle est faite avec des voix qui font de l'harmonie, des fois de la disharmonie. Bon, ça existe aussi, des voix dissonantes. Mais on travaille ensemble à construire l'Église. Et donc parmi les questions, il y en a plusieurs qui touchent à la fécondité. Il y en a deux seulement qui touchent plus à une question, je dirais, parallèle, les questions sociétales. Et je pense qu'on va les traiter rapidement pour plus rester après sur la question de la fécondité. Les questions sociétales, elles sont deux. Comment trouver notre place dans l'Église? Quelle place sommes-nous appelés à avoir dans l'Église? Qui sont plus des questions sociétales, je pense. Elles ne touchent pas notre thème. C'est des questions un peu générales. Je vais répondre rapidement. Je donnerai la parole aussi au frère Yannick, au père Yannick. Et puis nous rentrerons à plus dans le thème de la fécondité. Sur la place dans l'Église, je pense que il y a deux choses. Il y a, comme vous êtes croyant, chrétien, baptisé, vous êtes membre du peuple de Dieu. Ensuite, la place que vous allez avoir dans la communauté dépend de la façon, avec les textes que nous avons pour vivre comme tradition catholique, le prêtre va avoir dans son aptitude à lire une ouverture plus ou moins grande. Parce que les textes sont très serrés dans l'écriture, et donc il y a des collègues qui vont avoir une lecture très fermée, et ne pas voir de place à une personne homosexuelle dès qu'il aura un rôle à jouer dans la communauté. Il le laissera venir à la messe. À la limite, certains ne voudront même plus qu'il communie s'il est en couple, mais d'autres, suivant la lecture qu'il a des textes, dira c'est un frère catholique baptisé, il peut aussi recevoir le Christ. Voilà. Donc la place qu'on a, elle dépend de deux choses. Elle dépend du fait comment on continue à s'insérer nous-mêmes comme croyants dans la communauté et comment on travaille à être reçu. Et puis la capacité qu'a le pasteur à intégrer cette réalité dans le profil de sa communauté. Mais quelquefois ça peut être plus compliqué que ça. Je travaillais à Marseille pendant 15 ans et un jour un prêtre d'une paroisse du diocèse d'Aix voisine me dit « Bernard, j'aimerais que tu viennes faire, on va faire une semaine de mission dans la paroisse, une séance sur les sexualités différentes. » Alors il m'invite à son conseil paroissial, puis le conseil décide de ne pas faire la mission. Il voulait que je fasse une soirée sur les sexualités différentes parce qu'il avait un jeune de la paroisse qui avait disparu 3 ans, il était au cœur paroissial, il revenait en femme et il voulait venir au cœur paroissial. Comme la paroisse n'a pas voulu faire de soirée sur ce thème-là, il a réuni son conseil paroissial dans un travail ordinaire et il leur a dit l'exemple. Imaginez qu'on ait quelqu'un, il change de sexe de la communauté chrétienne. Il revient, il veut venir. Et l'ensemble du conseil a dit, « Père, on sait que ça existe, mais nous, dans la paroisse, on ne veut pas que les enfants voient ça à la messe dimanche. » Alors, il a reçu le jeune, il lui a dit, « Regarde, le conseil de la paroisse n'est pas prêt encore à faire que toi, tu reviennes avec ton histoire. Par contre, va à cette paroisse à côté ou celle-là, ils te recevront. » Ce qu'il a fait. Je trouve que le prêtre a été juste avec l'entourage qu'il avait. Il a respecté ses croyants et il a respecté le jeune avec son chemin. En sachant, voilà. C'est ça. Donc, la place, qu'elles sont appelées à voir, ben, il y a certains, on sait, ils sont lecteurs, d'autres animateurs de chant. Il y a un prêtre qui me racontait qu'il a fêté ses 60 ans de vie religieuse et c'est l'association des randonneurs gays qui ont animé la partie de la fête et la partie liturgique. Parce que 3 des membres du groupe des randonneurs gays étaient animateurs liturgiques. Donc, et en France, c'est pas... Donc tout est possible, je dis. Mais ça dépend vraiment de la façon dont le pasteur est situé par rapport au texte qu'il reçoit. Je ne sais pas toi ce que tu voudrais dire ou rajouter.
D'abord, je voudrais dire bonjour, parce que je débarque. Donc, du coup, c'est moins facile quand même de répondre quand on n'a pas suivi, enfin voilà, tout ce qui s'est dit avant. Et puis, voilà, j'arrive de ma paroisse. Les gens qui travaillent le samedi et le dimanche, donc du coup, on est un peu fatigué. Enfin, on travaille les autres jours aussi. Hein. Voilà, passé ce préambule. Juste peut-être dire que, donc, moi, mon lien avec Dieu, c'est notamment que j'ai accompagné ces 3 dernières années le camp d'été, le camp marché prière. Voilà. Puis certains m'ont vu peut-être à Solesmes, puisque j'ai prêché voilà, ma retraite à Solesmes. et je suis le curé non territorial, mais un peu de cœur de Yves. Je dis non territorial parce qu'il habite en dehors de ma paroisse, mais il vient souvent dans ma paroisse. Moi, je trouve, d'abord, c'est important de se dire que, enfin, y a une place qui est déjà toute trouvée, qui est celle du fait que vous êtes débaptisé. Enfin, c'est vraiment important de rappeler cette grâce baptismale, quand même. Je dis ça parce que peut-être on peut se dire, ben, on vit. Voilà, pour ceux d'entre vous qui sont concernés au premier degré par l'homosexualité, voilà, il n'y aura pas de sacrement de mariage dans l'Église. Alors, si on ne vit pas la grâce sacramentelle du mariage, ben, du coup, on n'a pas de place. Voilà. Voilà, on ne sera peut-être pas prêtre ou pas religieuse, alors on n'aura ni la grâce du sacerdoce, ni la grâce du... Et alors on finit par se dire, bah du coup, on ne peut pas être marié dans l'Église, on ne peut pas être prêtre dans l'Église, on ne peut pas être religieuse dans l'Église, donc on n'a rien dans l'Église. Bah, ce serait terrible pour tous ceux qui sont baptisés, je vous rappelle qu'ils composent, bah, je ne sais pas en statistique, mais 90% du corps du Christ qui est l'Église. Donc c'est important de se dire ça, c'est pas rien la grâce d'être baptisé. Et puis c'est pas simplement un événement passé, quoi. J'ai un évêque qui disait ça souvent, hein. Ne dites jamais « j'ai été baptisé », mais dites toujours « je suis baptisé ». Bon, alors là, on peut dire « j'ai été baptisé le temps de telle année », mais voilà, mais c'est une grâce permanente. Donc déjà, il y a une place toute trouvée qui est que vous êtes membre du corps du Christ. Après, je pense que par rapport à ce que dit... on se connaît Bernard, tellement bien que j'ai déjà oublié son prénom, pardon, Bernard, rien ne se connaît. Donc, Bernard, excusez-moi.
Il n'y a pas de mal, il n'y a pas d'honte.
Par rapport à ce que dit Bernard, je pense que c'est évident qu'il y a aussi beaucoup d'ignorance. La place à trouver, elle est aussi dans le dialogue. Ce matin, moi je fais rarement ça dans les homélies parce que je trouve que c'est pas le lieu, mais j'ai trouvé que c'était bien que je dise quelques mots là par rapport à la question donc, de l'ouverture de la procréation médicalement assistée. Et à la suite, du coup, il y a voilà, l'un ou l'autre paroissien, dont une bonne paroissienne qui est à Paris cet après-midi pour faire une petite randonnée avec son mari, qui me dit, elle me dit, mais en même temps, voilà, vous avez, parce que évidemment j'ai commencé par dire... de reprendre les propos de Mgr Boulin-Beaufort la conférence à Paris l'autre jour au Bernardin dans lequel il disait voilà, j'appelle tous mes voeux que plus jamais personne soit raillé, moqué, etc. en fonction de son orientation sexuelle. Quelqu'un qui m'a Vincent m'a envoyé ce texte là il n'y a pas très longtemps, donc j'ai redit des choses comme ça en préambule de mon propos. Et donc cette paroissienne est venue me voir puis elle me dit, mais oui, en même temps c'est compliqué parce que on a appris cet été qu'une de mes cousines vivait avec une femme et puis un de mes cousins avec un homme de le même été, c'était un peu voilà, surprenant ça. Et en même temps dans le groupe WhatsApp on peut pas en parler, non. Alors je lui ai dit, mais j'ai évoqué Dueck, j'ai fait une petite pub pour Dueck dans mon homélie, et du coup elle m'a dit ah mais je vais leur parler de ça. Mais je lui ai dit, puis, ce qui serait bien serait que nous on se revoie pour que moi je vous en parle, parce que vous leur en parlerez mieux si on en a parlé déjà avant ça. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup aussi de répétitions de propos. Moi, je dirais même que la manière, par exemple, dont, dans quelques enseignements qu'on trouve sur le site de Dueck, on parle du fait que dans la Bible, enfin, je vais dire des choses que vous avez tous déjà entendues, j'espère en tout cas, il n'y a évidemment pas d'orientation sexuelle homosexuelle, mais on parle de relations homosexuelles entre des personnes hétérosexuelles, et que c'est plutôt ça la condamnation de l'homosexualité dans la Bible. En tout cas, dit aussi clairement, si je l'ai dit clairement, j'espère, en tout cas, moi, je l'avais compris clairement, mais je ne suis pas très sûr que j'avais entendu ça aussi clairement pendant mes études, par exemple, de théologie. Voilà. Et en plus, je suis moraliste. Ça calme. Hein. Ça veut dire que j'enseigne les fondements de l'éthique au séminaire. Mais dit aussi clairement, ben, même pour moi, c'était pas si... Enfin, je pense que pour moi, c'était clair, mais c'était pas aussi clair dans sa formulation. Et donc, je crois que la place à trouver dans l'Église, c'est déjà une place de témoignage... Voilà, enfin, vous savez mieux que moi tous les clichés qu'il peut y avoir sur les personnes homosexuelles, et justement aussi de dire, bah, on est d'abord des baptisés, des chrétiens, bon, il se trouve qu'on est homosexuel, ou parents d'homosexuels, ou enfants, ou voilà, enfin, quel que soit le lien que vous avez, mais de témoigner, de... Ce que peut faire aussi beaucoup le livre, moi je trouve, hein, enfin, je sais pas si on le dit assez, mais je trouve que le livre « Foi, Église, homosexualité », c'est ça, j'ai toujours le tiercé dans le désordre, non, c'est dans l'ordre, hein, c'est d'ailleurs peut-être un des meilleurs témoignages. C'est parfois dans le dialogue on dit des mots malhabiles ou on répond immédiatement du tac au tac à ce qu'on nous dit, machin, etc. De lire un livre, ça on peut dire voilà, lisez ça, et puis ensuite on se revoit pour en parler, parce que ça permet d'avoir peut-être plus de recul. Voilà. Après, moi, je suis dans une paroisse où il y a plusieurs couples, en tout cas, au moins trois couples d'hommes. Et puis, il y avait un couple de femmes, puisque Marie-Claude est décédée en février. Mais bon, voilà, enfin, j'ai pas l'impression qu'elles aient pas leur place. Mais après, je suis absolument d'accord avec Bernard que, évidemment, ça dépend beaucoup de... Voilà. Mais nous, on est des prêtres formidables. Non, mais c'est toujours un peu délicat de dire ça, parce que, en fait, c'est parce que notre histoire a fait que, voilà. Mais on n'est pas meilleur que les autres. Après, dans le cas de ce que tu évoquais, c'est pas si simple que ça non plus. Parce que comme pasteur, on n'est pas que chargé de l'accueil des personnes homosexuelles, on est aussi chargé de toute la vie de la paroisse. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres... Enfin, comme dans la vie, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte. Mais c'est pas tellement aussi la place qu'on accorde ou qu'on n'accorde pas, c'est comment on l'accorde et comment on l'accorde pas, on le sait très bien. C'est-à-dire qu'il y a une façon de dire les choses qui change tout, quoi. Bah non, vous êtes homosexuel, mais voilà, si on vous dit ça, c'est absolument épouvantable. Mais il y a une façon de dire, bah, peut-être que ça, voilà, c'est pas pour l'instant, parce que je sais pas quoi, etc. Bon, mais c'est pas simple.
Oui, puis je parlais il y a pas longtemps avec un avocat ecclésiastique, je ne dirais pas son diocèse, parce que peut-être on comprend aussi pourquoi il était fermé, et qui me dit, vous êtes à devenir un Christ. Bah, j'y ai été pendant 12 ans, et il dit, la soeur n'est pas très catholique. Ah, je dis, pourquoi? Eh bien, quand vous lisez ce qu'elle dit sur les textes bibliques, elle dit qu'ils disent ça, mais qu'on peut les comprendre autrement. Ah, mais j'y mets père, ça, c'est l'exégèse herméneutique catholique complètement. C'est pas, on reçoit les textes dans leur contexte. Le concile l'a reconnu et l'exégèse la reconnaît. Même Pie XII demandait ça dans le travail sur l'exégèse. Il me dit oui, mais vous comprenez. Après, elle reconnaît aussi qu'il y a des couples homosexuels. J'y perds. Elle a 30 ans d'existence et elle s'est rendue compte que la continence pour tous était compliquée et que c'était un don et pas une pratique habituelle. Donc elle laisse à la conscience de chacun. Il me dit, je reconnais ce que vous dites, c'est plus sage, mais c'est pas très catholique. J'ai dit non, j'aime bien la première partie, la seconde me plaît moins. Alors il a dit, on finira comme ça. Mais, je dis quelque nombre de droits, donc il fallait qu'on discute correct. Mais c'est vrai que c'est terrible aussi d'entendre que le frère qui est chargé de défendre le lien dans l'Église, il a une vision si restrictive. Bon, c'est comme ça, ça arrive aussi.
Oui, puis il faut faire attention de ne pas trop instrumentaliser ce que dit le pape François, mais il y a quand même quelques très beaux textes qui peuvent grandement aider. Hein. Dans Maurice Laetitia, quand il dit que voilà, il y a des situations qui ne sont pas des situations forcément de grâce, mais où la grâce pourtant abonde, etc. Enfin, c'est un petit pas au milieu de beaucoup de difficultés compte beaucoup plus aux yeux de Dieu qu'un chemin de vie pour celui... qui n'a jamais eu de grandes épreuves à vivre, etc. Enfin, il y a des paroles dans Maurice Laetitia qui sont magnifiques. Et puis dans Gaudete et Exultate, dans la joie et dans l'allégresse, sur l'appel à la sainteté, il y a ces paroles autour de « tous ne peuvent pas tout hein, ». Pape François insiste beaucoup sur voir comment, au milieu des difficultés, il y a des chemins de possible, etc. Enfin, je n'ai pas les références là, mais je les ai dans mon téléphone, je pourrais vous les donner si vous voulez. Je trouve que là il y a deux textes qui sont très beaux. En tout cas, le tous ne peuvent pas tout. Bon, puis alors pareil, c'est toujours un peu facile, mais de temps en temps ça fait du bien quand même de le dire. Je veux dire, tous les chefs d'entreprise catholiques qui vont à la messe tous les dimanches, confessent tous les mois et communient tous les dimanches, fidèles à leur femme, ont 5 enfants et tout ce que vous voulez, sont pas forcément hyper fidèles à toute la doctrine sociale de l'Église de A à Z. Enfin, je veux dire, il y a aussi une espèce de focalisation. Bon, voilà, après, il faut dire, évidemment, il y a des choses qui sont peut-être plus majeures que d'autres ou qui impliquent l'anthropologie de l'Église et puis la vie globale des personnes plus. Mais enfin, je veux dire, il y a un tas d'autres points sur lesquels on ne vit pas en catholique. Donc, voilà, si vous roulez à 133 km/h sur l'autoroute, je vous signale que c'est 130, je ne suis pas sûr que les 3 km/h en plus soient catholiques. Et je ne suis pas toujours très catholique.
J'espère qu'à 133, mon père.
Pas beaucoup plus. Même on triche tous un peu avec la loi, ça que je veux dire, vous avez bien compris. Pas beaucoup, mais un peu.
Alors, la deuxième, c'est une question plus circonstancielle par rapport à ce que j'ai dit. La fécondité pour propager le message de Dieu. La fécondité n'est pas réservée aux croyants. Donc, n'est pas que le message de Dieu, mais pour la vie. Est-ce que ce n'est pas le message de Dieu qui donne fruit, qui donne la fécondité? Oui, je disais que dans le Premier Testament, ils disent que la fécondité sera bénédiction parce qu'elle produira la vie et qu'ils demandent d'être fécond pour que continue la promesse de Dieu. Donc ce n'est pas être fécond parce que tu es du côté de Dieu. Mais quand tu es fécond, il y a des chances que la promesse que Dieu a faite, tu la propages. C'est-à-dire que ta fécondité, elle a à voir avec la fécondité de Dieu. Et la fécondité de Dieu n'est pas que produire des vies humaines. Toute la nature qu'on a autour de nous, c'est Dieu qui la produit. L'équilibre des choses. Donc, dire, reconnaître que le principe de vie est Dieu, qu'il crée la vie. Et donc, quand tu es du côté de la création de la vie, tu participes de cette bénédiction de Dieu. Mais ça veut dire que tu participes. Ce n'est pas exclusif de ceux qui ne sont pas croyants. C'est tous ceux qui participent du processus de vie rentrent dans la bénédiction de Dieu, même s'ils n'ont pas encore reconnu.
J'ai envie de dire, en tout cas, par rapport au, enfin, le point B, là, est-ce que ce n'est pas le message de Dieu qui donne du fruit, qui donne la fécondité ? Et aussi en lien avec ce qu'on vient de dire juste avant, on a tous besoin d'une certaine reconnaissance. Voilà, on a plus ou moins besoin de reconnaissance. Je trouve que c'est important quand même de se dire que on arrive souvent à ne pas se mentir à nous-mêmes quand même, du coup à relire nos vies et à voir aussi justement la fécondité de l'évangile en nous. Enfin, moi, c'est une des choses qui m'a frappé quand je suis venu pour la première fois à une rencontre de Dueck il y a 2 ans avec Alain Thomassé, peut-être même 3 maintenant, du coup, 3, oui. Enfin, voilà, c'est la qualité de la prière, c'est tant qu'on puisse juger en fonction de la qualité apparente de la prière, de la qualité de la foi des gens. Enfin, vous voyez, on n'est pas là pour... Il n'y a pas de pistomètre, comme on dit pistis en grec, c'est la foi. Pas de thermomètre pour mesurer la foi. Mais je pense que chacun de vous, enfin voilà, vous nourrissez de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, pour voilà, ceux qui communient, du sacrement de réconciliation. Enfin, il y a une croissance, enfin, je trouve que c'est important de se dire ça. Enfin, personne ne peut dire, bah, parce que vous vivez comme ci ou pas comme ça, je ne pense pas que la question de l'homosexualité d'ailleurs, mais de manière générale, parce que de manière apparente, on ne vivrait pas comme ci ou comme ça. Enfin, soi-même, je pense qu'on peut être en paix quand on relie nos vies, de se dire... Enfin, et puis s'émerveiller, quoi, rendre grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur a fait en nous, tout ce qu'on a découvert de la foi, de enfin voilà. En tout cas, oui, évidemment, c'est le message de Dieu qui porte du fruit, qui porte du fruit en nous. Alors, sur la question de la fécondité qui n'est pas réservée aux croyants, mais pour la vie, enfin, c'est parce que, évidemment, ça dépend si on parle de la fécondité spirituelle de nos vies ou si on parle du fait d'avoir des enfants, enfin le fait d'avoir des enfants, évidemment par les hommes croyants, et la fécondité spirituelle, bah, elle est la même, elle n'est pas la même, mais je veux dire, elle n'est pas réservée aux croyants non plus, elle sera sans doute ressentie ou évoquée de manière différente selon la tradition religieuse. Évidemment, il y a plein de gens qui portent du fruit spirituel, je sais pas, toutes les institutrices qui ont élevé des enfants et les ont aidés à grandir, et toutes les infirmières et aides-soignantes et médecins qui ont aidé les gens à vivre en paix leur maladie, voire même le passage de la vie à la vie éternelle. Enfin, ce sont évidemment des gens qui ont eu une fécondité extraordinaire, et on pourrait, tous les agriculteurs qui vous ont nourri, enfin je veux dire, on pourrait, tous les médecins, les avocats qui vous ont défendu, etc. Enfin, je veux dire, on a tous une fécondité immense, bien sûr.
Le mot fécondité nous renvoie à la blessure de ne pas avoir d'enfant. Comment la traduire dans la vie ? Dans le dictionnaire, fécondité égale reproduction. Donc sur le constat, je ne vais pas contester un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est le déploiement d'un mot. Et j'ai passé mon temps ce matin à vous raconter comment, en tradition chrétienne, on lisait le mot. Et je pense qu'il y a les mots qui sont déterminés par la culture ambiante, et puis les chrétiens, par leur culture, ont une lecture différente des mots. Ils ouvrent les mots autrement. Et un mot, en plus, par principe, ça a plusieurs sens. Et donc, on est pris entre nos aspirations personnelles et les résonances que donne notre culture ou les lieux dont on se solidarise. Par chance, si on se solidarise de la culture chrétienne, on se rend compte que la fécondité ne touche pas que la reproduction humaine. Elle touche tout l'être humain qui est capable de fécondité spirituelle. Et donc, je dis, on a la chance de pouvoir revoir notre existence à autre que la fécondité matérielle, humaine. Et je dis, après, on est pris avec nos désirs, parce qu'on peut avoir le désir, effectivement, d'une fécondité humaine, d'avoir une descendance. Et on se rend compte que notre sexualité, spontanément, elle n'ouvre pas cette porte. Et c'est là qu'on touche les questions sociétales. Mais au départ, il n'est pas dit que tout être humain doit avoir une descendance. D'ailleurs, si tous avaient une descendance, la Terre aurait encore plus de monde. Vous voyez, donc je veux dire, c'est réentendre cette question. Et peut-être que nous, on a envie des descendances et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas. Alors aujourd'hui, on tombe dans les questions que pose la manifestation d'aujourd'hui. Est-ce que oui ou non, on peut utiliser des moyens artificiels pour continuer la descendance? Et les questions que ça pose au niveau de la descendance, d'avoir une paternité différente. Après, on a une réponse différente. Mais je dis, ce n'est pas notre travail de juger ça. Notre travail, c'est de nous ouvrir avec la proposition biblique du lieu où on prend notre source, à entendre ce à quoi on est invité. Et comme je vous le disais, il y a deux textes de la création. Il y en a un dans lequel on dit « multipliez-vous », le premier qui est le plus vieux, mais le premier qui est le plus ancien dit « l'homme et la femme feront une seule chair ». Il ne dit pas qu'ils produiront, il dit qu'ils produiront la vie après le péché originel, dans la souffrance. Donc, il dit que c'est l'harmonie des deux êtres qui va produire la vie. Et donc, je veux dire, rappelons-nous que la fécondité dans la Bible n'est pas que reliée à la procréation. Elle est liée à tout ce que les fruits, après dans la Bible, les fruits et les grains, produisent parce qu'ils ont le bon terrain et qui font que le terrain produise bien. Rappelons-nous que ce n'est pas limité, comme croyant, grâce au texte auquel on fait référence, la fécondité n'est pas exclusivement reliée à la procréation. Après, je dis, ben, on joue nos existences aussi. Certains veulent une descendance concrète. Et c'est là qu'entrent les tensions personnelles pour savoir comment le réaliser. Et vous avez remarqué, l'association, elle ne se positionne pas sur ça. Elle dit au niveau sociétal, ce n'est pas notre objectif de parler. Après, chacun fait avec ce que sa conscience va lui dicter. C'est pour ça que certains trouveront moyen d'avoir, ou par adoption, ou par GPA, des enfants. Et on le sait que ça existe déjà, même chez les chrétiens. J'ai un ami prêtre de Marseille qui me disait, avant que je parte de Marseille en septembre, l'année dernière, il me disait, Bernard, tu sais pas, je fermais la permanence paroissiale, arrive une dame, elle dit, bonjour mon père, c'était pour un baptême, venez, je vous inscris, tant pis, il inscrit, il dit, et votre mari viendra, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de mari, c'est votre enfant du mariage, non, non, c'est avec une jeune dame, je suis par GPA. Et je me suis assis une demi-heure avec elle pour raconter ce que disait l'Église, et puis j'ai fait le baptême après. Vous voyez, il y a aussi, ce frère était ouvert, capable d'accompagner. Un autre frère aurait pu faire différemment, en sachant le discours. Il aurait fait mal à la personne, mais je n'aurais pas pu le juger durement, parce que le discours permet de dire qu'on ne reconnaît pas que c'est la place normale. Et c'est la différence, après la difficulté, entre le chemin personnel, qu'il ne faut pas qu'il soit blessé par des attitudes générales, et puis la perception d'ensemble, où on redit quand même, je le dis vraiment, pour un croyant, la fécondité, ce n'est pas que la procréation. La fécondité touche beaucoup d'autres domaines, travaillant tous les domaines qui nous sont donnés pour être fécond. Peut-être qu'on n'aura pas la part fécondité de descendance, mais ce n'est pas ça qu'une existence est jugée. Regardez Mère Teresa, tout le monde en parle bien, elle n'a pas eu de descendance. Beaucoup de religieuses, d'accord, je vous le concède. Mais ce n'est pas ses filles. Vous voyez, et plein de scènes ou de personnages qu'on aime beaucoup, Gandhi, il n'a pas eu de descendance. On parle encore de son message. Il a une fécondité encore, il nourrit des gens par rapport à son violence. C'est pour ça que je veux dire, il y a des tas de façons de nourrir par sa pensée, sa façon de tenir l'existence, d'autres humains, sans avoir une descendance physiologique. Mais certains, ils sont pris entre les deux tensions, et j'entends que c'est une réalité aussi.
C'est pas si ça s'éloigne de ça, mais je me disais, en fait, la question souvent, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va laisser ? Je dis ça parce que je pense à un de mes paroissiens, ou en tout cas, habitant mon territoire et venant le week-end dans sa maison, sa résidence secondaire, que j'entends régulièrement dire qu'il restera de lui toutes les églises qu'il a sauvées. Monsieur Patrimoine est un de mes paroissiens, Stéphane Berne. Et bon, on va se revoir là bientôt pour moi je trouve que ce sera intéressant de parler de ça avec lui. Mais ça m'a beaucoup frappé quand il a dit ça l'autre jour, et je me suis dit, mais finalement, il y a cette préoccupation de qu'est-ce qu'on va laisser et la descendance est une des réponses, évidemment, à cela. On va effectivement prolonger notre vie par le fait d'avoir des descendants. Alors, on peut toujours répondre qu'évidemment, Mère Teresa a fondé sa communauté. Moi, je me dis, ben voilà, quand on est prêtre, évidemment, tous les gens qu'on a accompagnés, qu'on a aidés à vivre, tous les gens qu'on a pu éventuellement même aider à continuer à vivre et à ne pas mettre fin à leur vie, ça arrive quand même assez régulièrement. Tous les gens qu'on a portés, etc., etc. Enfin, je pense aussi à tous ceux qui nous ont portés, hein, mais là, voilà, pour se situer de ce côté-là. Donc évidemment, il y a cette fécondité-là. Est-ce que l'une remplace l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a sans doute une préoccupation de ce qu'on va laisser. Alors, on n'a pas forcément tous une vocation de chartreux qui consiste à justement ne rien laisser de traces de nous. Est-ce qu'il faut vraiment en avoir voilà, un tel souci? Puis après, c'est toujours une question un peu productiviste. Enfin, on est aussi dans un souci constant de produire quelque chose, de laisser une trace de nous. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de juste, et puis il y a quelque chose de pas très... enfin, en tout cas, à purifier, peut-être par rapport à ça. Et puis de revenir à cette évidence que... il y a plein de gens qu'on a aidés. Je ne sais pas si vous connaissez ce très beau film qui s'appelle La vie est belle. Non pas Rita est belle, hein, mais Life is beautiful, celui de Capra, merci. Vous savez, c'est quelqu'un qui est, enfin, il est désespéré parce qu'il a fait une banqueroute, etc. Bon, je passe les détails, mais il a son ange gardien qui lui apparaît. Ça peut exister au cinéma. Et son ange gardien lui demande ce qu'il veut, évidemment, comme il ne croit pas que cet homme qui est là et qui lui dit qu'il est son ange gardien, et de fait son ange gardien, il dit « Écoutez, moi je n'ai qu'un souhait, c'est de n'avoir jamais existé. » Alors il lui dit « C'est vraiment votre souhait ?» Il dit « Oui, je voudrais ne jamais avoir existé. » Il dit « Si c'est votre vœu, il va être exaucé. » Il revient sur les lieux de son accident, il ne trouve pas la voiture avec laquelle il y a eu un accident. Et puis il va être emmené sur la tombe de son frère, il dit « Mais c'est pas possible. Mon frère, c'est un héros de la guerre. Il a été décoré par le président des États-Unis, qui n'est pas mort. » Il lui dit, mais si, vous vous souvenez pas quand vous étiez petit, il a failli se noyer, mais c'est vous qui l'avez sauvé. Bah oui, je m'en souviens. Mais vous n'avez pas existé. Du coup, évidemment, il va relire sa vie et s'apercevoir de toutes les choses tout à fait ordinaires qu'il a faites, mais qui n'ont pas eu lieu puisqu'il n'a pas existé. Bon, je vous laisse regarder le film. C'est un peu long, hein, c'est moins de rebondissements que dans un James Bond. C'est un cinéma d'autrefois, mais c'est un très très beau film. Et ça permet de réfléchir sur voilà, ce que ça veut dire aussi... l'idée qu'on n'ait pas existé, peut-être que c'est d'ailleurs peut-être aussi une bonne façon d'envisager cette fécondité. Qu'est-ce qu'aurait été la vie des autres, de tous ceux avec qui j'ai été, etc. Bon, alors sans doute que ça aurait évité des erreurs, ou je sais pas quoi, ou des... il y a eu sans doute aussi des choses évidemment moins bonnes dans notre vie qui n'auraient pas eu lieu, et voilà. Mais pensons à toutes les choses bonnes, merveilleuses, et même très ordinairement merveilleuses, qui ont eu lieu parce que nous sommes. C'est quand même pas rien. Ben voilà, en tout cas, cette question est de vouloir laisser quelque chose après nous. Voilà, comment à la fois la purifier et en même temps la justifier. Et si j'avais perdu la deuxième chose, mais j'y repense. Par rapport à l'enfant, on sait bien, enfin, on entend bien, je pense, la grande réflexion. Il y a eu beaucoup de très belles choses hein, de dites, je trouve, dans tous les débats qui ont eu lieu ces derniers temps. Voilà, c'est qu'il faut toujours penser les choses en vis-à-vis, en je et tu, pour rappeler les souvenirs à ceux qui étaient. À Solem, au Rameau, où on a parlé de « je » et « tu ». Et vous savez, la problématique de Martin Buber dans le « je » et « tu hein, », c'est de dire « il y a « je », « tu » et « cela ». Et la question, c'est comment est-ce que, voilà, on est toujours dans un « je » et « tu » sans réduire l'autre à un « cela ». Peut-être que aussi, ça, c'est une bonne façon de réfléchir à la fécondité. C'est-à-dire qu'on, voilà, aussi douloureux que soit la question de ne pas avoir d'enfant, voilà, il faut penser la fécondité à partir de nous, mais à partir du tu aussi, à partir donc de l'enfant hypothétique, à partir de toutes les fécondités hypothétiques, voilà, pour essayer de voir ce qui est juste et comment ce tu reste bien un tu et pas un cela, quoi. Bon, voilà.
Ah, je
lis la question et le père Bernard fait la réponse. La Samaritaine rencontre un homme et une... La Samaritaine, c'est la rencontre entre un homme et une femme qui ne donne pas d'enfant. Mais le Christ établit le lien par une demande. C'est un moment de communion en vérité, c'est une autre fécondité. Une autre fécondité qui advient, je suppose que c'est ça que ça veut dire. Vous avez parlé de ça ce matin, non ?
Non, non, non.
Non, d'accord. C'est un bel exemple. Dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. Bon, en tout cas, ça l'aide à advenir à elle-même, ça c'est clair. Moi, je trouve que c'est aussi ça la fécondité. Enfin, c'est, vous savez, c'est par le Saint-Augustin, hein, deviens ce que tu es. On voit ça beaucoup dans le livre justement de Dueck, enfin, sur foi, église, homosexualité. Il y a un moment où le seul moyen d'être en paix, en tout cas, c'est d'être en paix avec ce qu'on est, même si avec ce qu'on n'est pas. Et peut-être encore plus paradoxalement, d'être en paix avec les qualités qu'on a développées à partir de ce qu'on aurait voulu ne pas être. Je veux dire par là que parfois il y a bien des choses dans notre vie, si on avait choisi, on les aurait mis de côté et on aurait demandé la grâce d'en être préservé, peut-être pour un certain nombre de l'homosexualité. Et en même temps, quand on relit sa vie, on s'aperçoit que c'est aussi les talents qu'on n'avait pas, mais y compris dans sa vie professionnelle, etc. On se dit, si j'avais le talent de machin dans mon entreprise, je serais tellement meilleur. Ben oui, mais du coup, je serais peut-être pas non plus moi à ma place avec les talents que j'ai et celui que j'ai pas. Enfin, voilà. Et la paix, elle naît aussi de ça, quoi, du fait de rendre grâce pour ce qu'on est et de rendre grâce pour ce qu'on n'est pas aussi, peut-être. Et puis de se dire que c'est ça qui a fait ce que nous sommes, et qu'on est chacun une grâce particulière.
Et ce qui est marrant, c'est que cette femme avait eu 6 maris. Et il n'est pas dit qu'avec un seul des maris, elle avait une descendance. Le 7e qu'elle rencontre, c'est Jésus, qui aurait pu devenir son mari. Et avec celui qu'elle rencontre pour trouver le sens, elle découvre que ce qu'elle cherche, ce n'est pas une descendance, mais c'est où est la vraie religion. Et elle lui dit, viendra le temps où ce ne sera plus en Samarie ou à Jérusalem, ça sera dans le cœur de chaque homme. Et vraiment, c'est, pour la question de la fécondité, je trouve c'est extraordinaire ce texte. Parce qu'il montre qu'il décentre complètement. Elle a vu 6 hommes sans avoir de descendance. Il n'y a pas dit qu'il y a descendance. Et le 7e grand rencontre, c'est Jésus. Jésus avec elle a un échange sur l'eau vive, la source d'eau. Et ça l'amène à poser la question, mais quel est le sens de l'existence? Elle dit, mais où c'est, il faut que je prie. Et Jésus lui répond, c'est pas là, c'est dans le cœur qui est du présent. Donc tu vas recréer la vie si tu sais le retrouver là où tu es pour la faire naître. Et elle repartira sans époux. Sinon, l'époux du cœur, l'époux de son âme, mais pas l'époux physique. Elle disait, vraiment, entendre ces déplacements auxquels on est invité comme chrétien, je trouve qu'on est, tout le temps en déplacement. Les croyants, on a la chance d'être en itinérance. Mais en itinérance, on n'est pas perdu parce qu'on a la boussole. On n'a pas la carte, on a la boussole. Ça donne l'orientation. On n'a pas la carte du chemin, on n'a pas le terme. Si, la rencontre de Dieu. Mais en attendant, on est libre.
C'est par rapport à la libération de la Samaritaine. Je me dis aussi, j'ai l'impression parfois, pour un certain nombre de chrétiens homosexuels, on réfléchit la vie chrétienne comme si l'homosexualité était toujours une barrière. Je trouve que c'est important aussi de se laisser libérer par le Christ, comme la Samaritaine. Elle lui a pas dit mais ce que tu me proposes, moi je peux pas parce que j'ai eu 6 maris. Elle rentre en fait pleinement dans ce que le Christ lui propose. Et par exemple, par rapport à la fécondité d'un couple homosexuel, moi j'aime bien dire, en tout cas, il y a les mêmes, comme chrétien, il y a les mêmes exigences de charité à cause du baptême que dans un couple, quoi. Hein, c'est-à-dire que la communication dans le couple, la fidélité dans le couple, enfin tout ce qui fait la vie d'un couple et qui repose sur les valeurs chrétiennes. La prière, un couple chrétien, normalement, ils prient ensemble. Tous les couples chrétiens ne vivent pas une vie de prière intense, etc., selon où ils en sont dans leur propre chemin de vie spirituel, etc. Mais on peut trouver quand même qu'il y a un certain idéal à prendre du temps pour prier ensemble quand on vit une vie de couple. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un certain nombre d'exigences, enfin c'est même pas d'exigences, d'appels, de choses merveilleuses de la vie chrétienne, dont il ne faut pas se priver sous prétexte que là aussi on est ceci ou on est cela, qu'on n'a pas été ceci ou cela. Enfin, voilà. C'est aussi la fécondité d'un couple homosexuel, il naîtra aussi du fait qu'on vit l'amour prend patience, l'amour en service, l'amour ne jalouse pas, enfin, vous savez, l'hymne à la charité. C'est un bon critère pour relire sa vie, les béatitudes. C'est le même appel, parce que c'est l'appel à la vie baptismale, en fait. Et c'est ça qui rendra fécond aussi l'amour dans le couple homosexuel.
Une question autour de la souffrance et la culpabilité. Je les joins parce qu'elles sont, les deux, il me semble, sont assez proches, mais on va dissocier. Autour de la relation entre la souffrance et la fécondité, doit-on passer par la souffrance pour être fécond? Attention à la culpabilité. Il faut la dépasser. La culpabilité peut rendre stérile. Je n'ai pas d'enfant, je me sens coupable. c'est deux choses. Pour moi, la souffrance et la culpabilité peut être source de souffrance. Mais la culpabilité est une chose, la souffrance en est une autre. On peut souffrir sans se sentir coupable. Il y a plein de situations qui nous font souffrir, dont on n'est pas responsable. La culpabilité, elle est liée à la perception qu'on a de nous-mêmes, pas forcément de choses qu'on fait. Et je dis, chaque fois que l'on se sent coupable, si l'on n'a rien fait de mal, c'est qu'on n'est plus dans la situation juste d'être fille et fils de Dieu. Parce que si tu es un être créé par Dieu, alors tu n'as pas à te sentir coupable. Surtout pas de ce que tu es. Parce que ce serait une insulte au Créateur. Tu es comme tu es, et tu dois porter ce qui te constitue. La difficulté, c'est qu'on dit, mais je suis comme ça, mais c'est pas que j'ai voulu. Mais avoir les yeux verts, personne ne l'a voulu. C'est de la chance des fois, parce qu'on dit, c'est très beau les yeux verts. D'accord, mais oui. Mais bon, il n'y a pas beaucoup qui les ont les yeux verts d'ailleurs. Plus de yeux bleus que de yeux verts. Et donc, entendons que quand on transforme en culpabilité un sentiment de mal-être, on est peut-être en train de transposer au sens moral une mauvaise perception de nous-mêmes. Et je ris beaucoup parce que j'accompagne un groupe de prêtres marqués par l'homosexualité. Et il y a des frères aînés qui avaient beaucoup de mal. Au bout de 2 ans, certains ont trouvé la paix. Je les ai fait rire. Je leur ai dit, les gars, toi, quand tu vois un garçon, tes yeux ils font bloup, 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 bloup. D'autres garçons, ils voient une femme, bloup, bloup, bloup. La fille, elle voit un garçon, bloup, bloup. Elle fait un fille, bloup, bloup. Elle dit, merci mon Dieu, mes yeux font bloup, bloup pour quelqu'un. Une fois que tu as bien dit merci pour le loulou très beau que tu as fait pour la personne très belle pour toi, dis-toi, je suis engagé quelque part, comment je fais pour être sérieux à ce que j'ai choisi? Mais commence par dire merci au bon Dieu de t'avoir donné ce loulou à tes yeux. Ça veut dire que tu es encore vivant. Quand tes yeux font loulou pour quelqu'un, dis merci. Et je pense souvent, on rentre dans la culpabilité parce qu'on a honte d'avoir les yeux qui font loulou pour quelqu'un. Bah, dites merci, le bon Dieu vous rend sensible aux autres. Dites merci. Ça ne veut pas dire qu'il faut coucher avec tous les gens et qu'on fait bloup-bloup. Autrement, on serait fatigués, nous aussi. Mais retrouvons cette liberté. Disons merci pour ce qui nous constitue. Parce que quelquefois, les culpabilités, elles viennent là. On dit, j'avais pas choisi ça, et pourquoi je suis comme ça, et je suis comme ça, et c'est pas normal. Tu es comme ça, dis merci à Dieu, et demande à marcher avec ce qui te constitue. Et trouve des frères et des sœurs qui vont t'aider à marcher. Parce que tu auras aussi des frères et des sœurs qui poseront des barrières, qui ne seront pas capables de te poser le chemin d'ouverture pour te faire marcher. Mais la vie, c'est comme ça. Quand on commence une profession, on sait qu'avant de trouver sa place, il faut faire 5-6 portes. Et je suis modeste. J'ai écouté une dame, elle a fait 300 demandes, elle n'a reçu qu'une réponse. Oui, donc, c'est-à-dire, dans l'église, on en fait moins de portes avant de trouver une qui s'ouvre et qui est capable d'écouter. Mais on fait peut-être 10 portes avant que quelqu'un qui entende et qui comprenne où c'est qu'on est. Mais la culpabilité, je dis souvent, c'est faisons attention, parce que quand on parle de culpabilité, souvent, on mêle les questions morales, notre perception personnelle, qui nous détourne du vrai combat qu'on a à mener. Vivre avec ce qui nous constitue de façon responsable. Ensuite, la relation entre souffrance et fécondité. Je n'ai pas dit ce matin que la souffrance était nécessaire, mais j'ai dit que quand la souffrance nous touche, n'ayons pas peur, elle peut être le lieu dans lequel aussi va passer la bénédiction. Il y a des souffrances qui, si elles sont bien accueillies et bien transformées, vont être lieu de bénédiction. Mais une souffrance en elle-même, jamais c'est une bénédiction. Je ne me permettrai pas de voir quelqu'un avec un cancer. Mon Dieu, Dieu te bénit, tu as 2 cancers à la fois, c'est bien. Non. Tu as mal, tu souffres. Que ta souffrance puisse être dans lequel tu es tendu et tu vas pouvoir offrir tes souffrances et grandir, c'est autre chose. J'ai accompagné 2 ans et demi un jeune tétraplégique après un accident de voiture. Et il était à faune parce que son pare-brise avait explosé. Et souvent on a parlé, il me disait, Bernard, pourquoi je suis encore vivant? Un tel, il est mort direct. L'autre, il est mort direct. Moi, je suis encore là. Et je lui dis, tu vois, je n'ai pas d'explication. Sinon que je sais que mon copain de service militaire, il a eu une rupture d'anévrisme. Il a tenu 1 an et demi dans le coma parce que ses parents n'ont pas voulu qu'on arrête les traitements au début de son coma. Eh bien, les parents ont décidé qu'on pouvait arrêter les traitements. On l'a transféré à Berck et il est mort 3 jours après. Il a attendu que ses parents soient prêts. Et je dis, ou alors, c'est que la personne, dans ses souffrances, elle pense à des gens qu'elle porte. Tu crois que c'est possible? Je dis, moi je ne sais pas ta vie. C'est possible que tu portes des gens parce que tu souffres. Il a tenu encore 1 an et demi. Est-ce qu'il a porté des gens? Je ne sais pas. Oui, mais dire, on ne sait pas la souffrance. Mais je n'ai pas dit que la souffrance est nécessaire à la fécondité. Mais que la souffrance n'exclut pas la fécondité du chemin de vie. On peut traverser des grandes souffrances et qu'elles peuvent devenir de bénédiction pour les autres. Parce qu'on va les transformer. Thank you.
toujours compliqué de parler de la souffrance, hein, parce qu'on vit chacun et d'autres. En tout cas, d'abord, je trouve, enfin, il faut se rappeler qu'on est un peu pollué par ce qu'on appelle le jansénisme, hein, au XVIIe siècle. Le fait qu'on nous ait appris, alors, plus jeunes d'entre nous, sans doute pas, mais les plus anciens ont appris qu'il fallait souffrir pour gagner son paradis. Ce qui, à première vue, n'est pas marqué comme ça, tout à fait, dans l'Écriture sainte. Et donc, du coup, en fait, il y a la souffrance qu'on subit, il y a celle qu'on fait subir, et puis il y a la souffrance au-devant de laquelle on va. Alors, voilà, c'est jamais bon d'aller au-devant de la souffrance, puisque, comme vient de le dire Bernard, la souffrance n'est jamais une bonne chose en soi. Mais il y a aussi une souffrance qui est liée au fait, tout simplement, qu'on est des êtres créés, et limités, et finis. Et ça, c'est important de se dire, de toute manière, être vivant, je parle pas de la souffrance d'être tétraplégique ou d'avoir un cancer, là, je parle des souffrances les plus ordinaires de la vie. Et ça aussi, c'est important de... Il y a un grand philosophe, hein, qui s'appelle Merleau-Ponty, qui dit que la liberté consiste à se créer à partir d'un donné. Et donc, mais on souffre toujours de ça. Ce que je disais tout à l'heure, on aurait voulu tel talent qu'on n'a pas, on aurait rêvé de vivre à telle époque dans laquelle on ne vivra jamais, on aurait voulu... Enfin, voilà. Il y a un tas de souffrances comme ça qui... Mais c'est important de se dire que c'est à partir de ça aussi, de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, qu'on peut se construire. C'est là où la souffrance, à ce moment-là, peut être féconde. Donc, non pas une souffrance voulue pour gagner son paradis, comme si c'était comme ça, mais... l'acceptation de la finitude, en fait, l'acceptation de la finitude. Et puis dans cette finitude, il y a des souffrances plus aiguës, de maladie, de la mort, de peine de cœur, d'être amoureux de quelqu'un qui n'est pas amoureux de nous, etc., etc., enfin tout un tas de choses, des échecs de la vie. Alors, pas mal de choses qu'on dit aujourd'hui, hein, sur la valeur de l'échec et combien est-ce que c'est important dans l'éducation des enfants, notamment, et des ados, de leur apprendre que l'échec peut être ô combien fécond et qu'il n'y a peut-être pas pire que des gens qui ont jamais vécu d'échec. Ça les rend plutôt assez détestables. Mais voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut entendre, en tout cas, la souffrance qui est la souffrance qui est féconde. Voilà, mais en tout cas, il ne s'agit pas d'aller au-devant de cette souffrance. Je pense que c'est parce qu'on a exalté aussi la souffrance de la passion du Christ, on ne l'a pas bien comprise. Ce matin, ça m'a frappé, je dis ça à mon animateur liturgique, on a chanté une anamnèse qui dit, je crois que c'est de Bazin, « Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons... » Ah si, on dit « Seigneur ressuscité ». Ah mais c'est bien mieux de vous le dire à vous, j'ai été consolé. Parce qu'en fait, j'ai entendu « Nous proclamons ta mort, nous attendons que tu viennes ». Je me suis dit « Il est ressuscité entre les deux, il n'a pas dit ». Si, si, on doit le dire quand même. Mais c'est pas si clair, en tout cas. Enfin, je veux dire, dans l'anamnèse, il est mort, il est ressuscité. Et, vous voyez, parce qu'on dit souvent ça. Jésus nous a sauvés par sa mort. Jésus nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Parce que si on oublie la résurrection, c'est qu'on oublie. Non, c'est parce qu'il a été vainqueur de la mort. C'est pas parce qu'il est mort, c'est parce qu'il est vainqueur de la mort qu'il nous sauve. Et donc, c'est important aussi de se dire que la souffrance, elle a du sens que si elle produit de la vie. Enfin, si elle aide à avancer dans la vie ou si elle... fait rebondir dans la vie. Puis après, il faut... Voilà, il y a nous, mais il y a aussi ô combien est féconde le fait d'aider les autres dans leur propre souffrance. Alors, la pitié peut être dangereuse, pour reprendre le titre d'un livre célèbre de Stefan Zweig, c'est un fait aussi qu'on existe beaucoup par notre manière d'accompagner, voilà, il y a une... Je crois que j'avais dit ça à Solène, il y a une manière de regarder les autres, de les rendre humains aussi dans leur souffrance. J'avais dû citer La Belle et la Bête, parce que je crois que c'est très beau, hein, c'est quand la bête est regardée comme beau que la bête devient beau. Là aussi, la souffrance, il y a une manière de la regarder, de l'accompagner, de l'entretenir, ou au contraire, de cheminer avec elle, etc., etc. Ça fait partie des mystères de l'Évangile. Pourquoi est-ce que Jésus il dit, vous savez, aux paralytiques, « Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » À Lourdes, les gens, ils ont laissé leur bâton à la grotte. Hein, enfin, ceci, on en a retiré beaucoup, mais à une époque, il y en avait encore plein de béquilles et de machins. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il dit « Prends ton brancard et rentre chez toi » Et souvent, l'interprétation de ce passage, hein, c'est de dire que Jésus, il résout pas toutes les souffrances, mais il vient nous aider à marcher avec, à avancer quand même malgré elles. Et puis, une fois qu'on est en paix avec cette idée qu'il faut pas souffrir pour souffrir, parce que ça a vraiment à nouveau aucun sens, on peut peut-être paisiblement constater que, voilà, souvent dans nos vies, voilà, c'est aussi les épreuves de la vie qui ont fait qu'on a réussi à avancer et qu'on est devenu bon. Et c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, je ne sais pas si c'était bien clair, mais quand je disais que c'est ce qu'on aurait voulu ne pas être qui a fait tout ce qu'il y a de beau dans ce qu'on est, quoi. Enfin, voilà, y a une partie de... voilà, on aurait voulu ne pas perdre telle personne de notre famille, séparation de parents, enfin, voilà, plein d'épreuves. Il y a plein d'épreuves de la vie. Et évidemment, sans doute que ces épreuves-là, il aurait mieux valu qu'elles n'existent pas. Et en même temps, force est de constater que si on s'en est sorti vivant face à ces épreuves, c'est aussi ça qui a donné le meilleur de nous-mêmes. Et c'est un mystère, mais comme le mystère de la mort. Parce que c'est un mystère, personne n'a envie de mourir, enfin, j'espère, sinon il faut venir nous parler. En même temps, on sait bien que c'est parce qu'on sait que peut-être demain on sera plus là, qu'on est venu cet après-midi. Parce que sinon, moi je serais venu l'année prochaine. Enfin, je sais pas pour vous, mais voilà. Parce que là, cet après-midi, j'aurais fait la sieste. Mais c'est mystérieux. C'est le fait qu'on sait aussi que nos vies ne sont pas éternelles sur Terre, qui donne une espèce de ressort à nos vies. Enfin, qui a une espèce d'urgence d'aimer, d'agir, de... Voilà. Au risque d'ailleurs d'être trop empressé. Alors, il faut trouver l'autre équilibre, la tempérance. Mais c'est un... C'est un mystère pas des moindres dans la question de l'euthanasie, mais on va pas se lancer dans ce sujet-là. Mais parce que c'est une vraie question philosophique, c'est pas qu'une question de croyant. Quelle est la place du rapport à la mort dans notre vie, dans la vie de nos sociétés, trop y penser, évidemment conduit à la déprime, mais on peut pas vivre comme ces gens qui vivent en oubliant qu'un jour ils devront mourir. Vous savez quel est le grand-père de l'Église qui a écrit ça? Non. Jean-Jacques Goldman. Belle, on ira. Ça doit être dans le premier couplet. Alors, l'Église peut être source de souffrance dans son message. Elle nie la fécondité des homosexuels, et notamment du couple homosexuel. Comment croire en notre fécondité dans ces circonstances? D'abord, pardon. Pardon si vous pensez ça. Ça me fait la peine de le lire, en tout cas. Sans doute, une partie de l'Église, certains de l'Église, etc., etc. Et à nouveau, hein, si, je pense que le pape François a fait abondamment bouger les lignes, mais ce serait pas très juste de dire que ses prédécesseurs ne l'ont pas fait. Enfin, je veux dire, vous imaginez le nombre de prêtres qui ont accompagné aussi, quand même, délicatement des personnes homosexuelles. Enfin, je veux dire, je sais qu'il y en a un paquet qui ont dit des choses épouvantables, mais il y a quand même un certain nombre, j'espère, qui ont été là, compatissants, accompagnants, et parce que éventuellement, d'ailleurs, eux-mêmes concernés. Donc voilà. Je sais pas très bien quoi répondre à ça. J'ai toujours peur qu'on tombe aussi un peu toujours, vous voyez, dans l'éternelle flagellation. Enfin, je veux dire, quand j'entends tous les gamins, moi je suis dans une paroisse où il y a 90% des gens qui ne sont pas catéchisés. Je pense pas que tous ceux qui traitent sur la cour de récréation les autres de PD et de tapette et de tout ce que vous voulez, ce soit un fruit du catéchisme auquel ils sont allés. Puisqu'en l'occurrence, ils y sont pas allés. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué la question de l'homosexualité, pas que pour les chrétiens. Donc, je pense que les blessures, elles sont là. Je veux pas du tout, pardon, parce qu'à l'inverse, ça pourrait être un peu, bah, c'est un peu facile, mon père, faut quand même assumer ce que dit l'Église. Bon, donc voilà, j'assume ce que dit l'Église. Par exemple, je pense pas qu'aujourd'hui, si on publiait le catéchisme, on dirait exactement de la même manière les choses, et en même temps, c'est très complexe, hein, cette question-là. Mais sans doute que. Bon, après, le catéchisme, c'est pas un livre de pastoral auprès des personnes homosexuelles non plus. Mais voilà, enfin, en tout cas, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes dans l'Église, et n'oublions pas que l'Église, à nouveau, hein, c'est pas les prêtres, c'est pas le pape, c'est pas les évêques. J'espère que vous avez beaucoup de frères baptisés et de sœurs baptisées qui vous accompagnent, qui vous accueillent, et ils sont aussi l'Église, et ils ont le sens commun de la foi. Donc, ils savent aussi... Enfin, voilà, c'est aussi eux qui accueillent. Ouais. Mais pardon.
Oui, si on se situe aussi dans l'Église institution... vous avez vu le synode des familles, le texte intermédiaire qui a été proposé et voté. Et le pape a tenu à ce que les numéros de vote par numéro à voter soient publiés. Ça ne s'était jamais fait. les trois numéros qui n'ont pas été retenus dans le texte parce qu'ils ne sont pas passés à une dizaine de voix de manque, qui reconnaissaient la stabilité d'un couple homosexuel, la beauté d'une relation stable, ils ne sont pas passés à 10 voix seulement, sur 250 personnes. Le pape a fait en sorte que la communauté discute ces questions de façon ouverte. Et comme il n'est pas autocrate, il dit que c'est la communauté qui décide. Mais il s'arrange à faire qu'on en discute, qu'on en parle. Après, au niveau personnel, il a pris des beaux actes. Vous savez que la semaine dernière, il a reçu le père américain James Martin, de façon, dans son agenda public, pas privé, une demi-heure. Le père qui a écrit un livre, LGBT, construire des ponts, qui a fait une conférence à la rencontre mondiale des familles à Dublin, sur ce thème-là. Et suite à son livre, les évêques américains, plusieurs, l'ont interdit de conférence inaugurale dans des universités catholiques. Eh bien, le pape l'a reçu une demi-heure pour parler avec lui. Le pape a reçu un monsieur transsexuel espagnol qui avait des problèmes avec son diocèse, que l'évêque avait envoyé au pape. Il a reçu le jeune de Lyon qui a été frappé dans la rue. C'est-à-dire, le pape, dans ses attitudes personnelles, montre l'attitude de Jésus. Et après, il dit c'est l'Église qui choisira ensemble.
Alors, il y avait des sanctions, hein, l'école jésuite aux États-Unis.
Il y a une école qui a été, par un évêque, interdite de cérémonie d'entrée parce qu'elle n'avait pas voulu démettre un prof marié homosexuel. Le pape, le Rome, le service de l'université catholique, a suspendu la décision. Ils auront la messe de rentrée quand même. Le pape prend des décisions, tout ce qu'il peut prendre qui n'est pas de l'ordre de la décision pour tous, puisqu'il dit que cette église elle est un collectif, un synode, et bien il le prend pas tout seul. Mais tout ce qu'il peut faire d'ordre de témoignage, il montre une attitude comme Jésus d'écoute et d'ouverture. Il dit vraiment, là on a vraiment le frère sur la route qui montre le chemin de Jésus. Après, je reconnais que le texte actuel, les textes actuels qui sont les textes qui décident de l'orientation, ne reconnaissent pas aux couples de personnes du même sexe, donc pas comme les femmes aussi, de statut officiel. Non seulement dans les décisions des lois qui ont été prises, mais idéologiquement, en disant deux personnes du même sexe ne peuvent pas avoir une relation, c'est ce que dit le texte, qui soit reconnue comme relation portant du fruit, puisqu'elle n'est pas conforme à l'orientation habituelle, je traduis, à l'orientation habituelle de ce que sont les relations humaines. Voilà. Mais entendons que c'est comme ça, et que c'est plus compliqué, et qu'après, ben, on a des frères forcément qui n'ont pas tout lu, qui appliquent un texte, qui écoutent ce que disent leurs familles, prêtres, je pense, des frères pasteurs, et donc qui sont un peu fermés. Mais ce n'est pas lié au fait que vous soyez du courant traditionnel ou pas. Dans tous les courants, vous avez ces questions-là, et elles se posent très fortes. Donc, c'est l'Église, elle chemine en commun, elle essaie de trouver une parole juste. Et j'avais donné au groupe du Sud-Ouest, quand ils sont venus à Dax, un très beau texte qu'a fait le père James Martin à tous les homosexuels des États-Unis. Une vingtaine de petits points, en leur disant, tout d'abord, je voudrais vous dire, vous êtes baptisés quand vous êtes membre du peuple de Dieu. N'ayez pas honte. Vous êtes croyants, continuez à pratiquer, continuez à prier. Et si on vous jette dans votre paroisse, cherchez une paroisse ouverte qui va vous recevoir. Enfin, le texte, je le ferai suivre pour qu'on vous l'envoie. Un texte très beau de 20 points. Qu'il avait adressé à tous les chrétiens nord-américains, homosexuels, lesbiens ou transsexuels, en leur disant, vous avez cette particularité, rappelez-vous, baptisé, vous êtes membre du peuple de Dieu. Personne ne peut vous nier que vous en êtes membre. Donc continuez à montrer que vous êtes membre en participant. Vraiment, c'est retrouver cette force, ce dynamisme, et du côté de ce que dit la fécondité. La fécondité, c'est j'assume ce que je suis, et je le pose, et bien sûr, je le poserai là où mes frères vont me recevoir. Ils ne me reçoivent pas, je ne suis pas en colère, je vais à la porte à côté où on me recevra. Parce que la porte à côté, elle te recevra, ça veut dire qu'elle accueille ta réalité et qu'elle veut bien qu'elle fructifie avec eux. La communauté entière n'est pas prête, mais il y a des communautés qui sont prêtes. Mais reconnaissant qu'on veut peut-être le total. Prenons le local. Si le local est prêt, on marche avec le local. Le total, on verra après. Je ris parce qu'ils sont venus donc à Dax pour la dernière rencontre. Et donc, Dax, c'est rural. Et donc je suis à 7 km, un petit village, il y avait 70 personnes, le groupe était 20 en plus. Ils ont animé la messe. Et ils ont entendu dire « devenir en Christ ». On n'a pas présenté pour ne pas les affoler. Alors il y a une dame, martiniquaise, elle me dit « c'est quoi devenir en Christ ?» Ben, des gens qui veulent s'unifier dans Jésus. Elle dit « mais s'unifier de quoi ?» De leur sexualité. « Ah bon, ils sont infidèles ?» Non, non, je dis « ils sont homosexuels ». « Oh là, Bernard, j'aime pas du tout ces gens-là, ça ne supporte pas, ça me passe beau. » Elle dit, « c'est vrai que dans la délice, il y avait deux, j'ai pensé qu'ils pouvaient être en couple, mais pas celui qui animait les chants. » « Ah ben, j'ai bien sûr, il y avait son compagnon là. » Oh, d'un coup, c'est extraordinaire. Ils nous ont fait prier en plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas prié comme ça. J'y retiens ça. Et le dimanche soir, il est venu m'embrasser. Bernard, merci de me faire bouger par rapport à ce que je pensais d'homosexuel. La vie, c'est comme ça, vous voyez. Il faut y aller petits pas pour que les gens ils se posent tranquillement et puis qu'ils découvrent autrement les choses sur lesquelles ils ont des idées préconçues.
J'ai envie de dire quelque chose par rapport au aussi, au, enfin, toujours par rapport à cette question, mais enfin, le pape François, d'abord, il a demandé aussi hein, pour certains discours, il a demandé pardon pour certains discours qui ont pu être blessants, etc., etc. Donc, il ne faut pas que ces discours blessants nous fassent oublier tous ceux qui, au milieu de ces discours blessants, et depuis que l'Église est Église, ont aussi eu des paroles consolantes et accompagnantes, etc. Puis je trouve que, je ne sais pas si c'est un syndrome français, mais c'est assez français de aussi toujours vouloir se flageller par rapport au passé, etc., etc. Alors, il ne faut pas oublier ce qui a été dit, il faut rectifier ce qui a été dit qui n'était pas juste, etc., etc. Mais, enfin voilà, il faut aussi aller de l'avant, quoi, en voir tout ce qu'il y a de... Enfin, les lignes qui bougent aujourd'hui, trouver un juste équilibre entre... on n'est pas là pour nier les discours passés ou je ne sais pas quoi, parce que ce ne serait pas très juste d'oublier de là où on vient éventuellement, ou ce qui a pu être dit avant. Mais je trouve que c'est important aussi pour positiver, de se dire, bah, en attendant, voilà, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui bougent. Et, vous voyez cette mère de famille ce matin qui m'a dit, ah, mais moi, il faut que j'en parle à mon cousin, à ma cousine. Je ne suis pas très sûr qu'il y a un an et demi, quand ils sont arrivés dans la paroisse, j'aurais eu l'audace d'aller lui dire, ah, mais voilà. Donc, je pense que voilà, les gens sont plus prêts aussi à entendre. Ça, c'était par rapport à passé et présent. Et puis, décidément, je suis fatigué parce que je voulais dire une deuxième chose que j'oublie. Oui, par rapport à la différence. C'est dans le dialogue interreligieux. Vous savez bien où est-ce qu'il veut en venir. Mais c'est très classique. Quand on parle avec des musulmans, il y a des bons paroissiens qui nous disent oh, « Puis quand même, non, mais il faut qu'on parle avec eux, parce qu'on a plein de choses en commun. » Et moi, je leur dis toujours, en fait, ce qui vous intéresse chez les autres, c'est ce qu'il y a chez vous, quoi. Vous pensez que c'est très ouvert, comme façon de voir les choses? Alors les gens comprennent. Mais je leur dis, ce qui est intéressant chez les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est qu'ils ne pensent pas comme nous. Et ce qui est intéressant, c'est d'en parler, et puis de se dire, bah, même si on ne pense pas pareil, on peut quand même se parler. Puis même peut-être, à travers ce qu'on ne pense pas comme vous, vous pouvez nous apporter des choses. Hein, si vous lisez Christian de Chergé, il dit ça magnifiquement, le père abbé de l'abbaye de Tébérine. Moi, je trouve ça, c'est assez... c'est des choses sur lesquelles j'ai dû dire aussi deux, trois trucs à Solène, mais je le redis ici. Je trouve que c'est intéressant toujours... comment est-ce qu'on parle avec les gens qui pensent autrement, d'un autre bord politique, d'une autre sensibilité ecclésiale, d'une autre tradition religieuse, qui sont tradis alors qu'on est progressiste alors qu'on est tradis, même si je ne sais pas très bien, je serais sûr que tout ça, ça veuille dire encore quelque chose, mais vous voyez, enfin bon, il y a tout ça. Est-ce qu'on va chercher dans l'autre, finalement, une autre façon de penser qui va éclairer la mienne, et au bout du compte, qui va faire que je vais dire, bah, moi je pense toujours comme je pense, tu penses toujours comme tu penses, mais c'était intéressant qu'on en parle, et puis ça m'a aidé à éclaircir un peu, quitte même peut-être à ce que ça m'affermisse dans ma façon de comprendre les choses. Vous voyez, Christian de Chergé, par exemple, il dit, bah, le dialogue interreligieux, ça permet aussi de ne pas oublier que, aussi grande que soit la révélation, la compréhension que j'ai de la révélation, elle est toujours minime, parce que Dieu n'est pas plus grand que la révélation, mais moi, la compréhension que j'ai de la révélation, elle est forcément plus petite que la grandeur de Dieu. Donc les autres traditions religieuses, c'est pas qu'elles m'apprennent quelque chose d'autre sur Dieu, mais elles me rappellent que j'ai jamais fini de comprendre Dieu. Je peux pas comprendre au sens d'en faire le tour. Alors je dis ça pour dire que c'est pareil, il faut, pardon mais je prends un autre exemple, mais comme dans le féminisme quoi, il y a un moment il faut arrêter de penser que l'égalité homme-femme consistera à ce que toutes les femmes puissent faire absolument tout ce que font tous les hommes, enfin je veux dire, globalement depuis Régine Pernod on est à peu près sorti de ça, mais pas complètement ou pas tout le monde en tout cas. Et donc je crois que c'est pareil, il faut aussi qu'on arrive à se dire, mais je le dis aussi du côté de l'Église hein, évidemment, mais voilà, comment trouver les mots pour exprimer ce qu'est la fécondité d'un couple homosexuel. Et en même temps, on ne l'exprimera jamais absolument de la même manière que la fécondité d'un couple hétérosexuel. Mais c'est pas parce que l'Église pense comme ça ou qu'il y a 2000 ans de théologie et que etc. C'est juste parce qu'il y a un fait, voilà, un fait de notre monde et de notre vie. Voilà, qui a des hommes et qui a des femmes, que le lieu ordinaire de la fécondité et de la naissance d'une vie nouvelle, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Et ça, ben, c'est quelque chose qui est donné et qui est indépassable et qui est, je sais pas, etc., etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment trouver une forme de discours, notamment quand je dis tout à l'heure que les couples homosexuels, ils sont appelés à vivre l'hymne à la charité, comme les couples hétérosexuels, par exemple, parce qu'il y a la grâce baptismale. Il faut peut-être qu'on réfléchisse à partir aussi de ce que c'est que la grâce baptismale. Et enfin voilà, en tout cas, c'est curieux de vouloir toujours. Enfin, c'est pas que. Les questions d'homosexualité, c'est typique de tout, quoi. On voudrait à la fois être toujours unique et en même temps que tout le monde soit comme nous. Enfin, voilà, c'est toujours un peu complexe. Ben, il faut réussir à trouver l'équilibre. Moi, je pense que l'Église, elle a une théologie pour ça, ça s'appelle la communion. Vous savez, quand vous pensez l'Église, vous pouvez penser le pape, les évêques, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres, qui sont forcément en dessous, hein, et les baptisés. Bon. Mais on peut penser aussi le pape au milieu, puis des cercles autour. Et déjà, ça change la vision des choses, vous voyez. Alors pourquoi le pape au milieu? Parce qu'il faut quelqu'un qui assure la communion. Mais vous voyez, il faut toujours qu'on pense tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit en termes communionnels. Et si on pense en termes communionnels, par évidence, on va aussi penser à des rouages, etc. Enfin, je veux dire, dans des rouages, forcément, vous avez des petits et des grands rouages, et des machins et des trucs. Et il faut une multiplicité de choses. Enfin, pensez à l'écosystème, c'est quand même extraordinaire. La communion humaine, c'est un écosystème. Et donc, si tout le monde est le même, et si tout est pareil, et si... Voilà. Enfin, pensez à la fécondité... les artistes les plus déjantés, on peut espérer que les homosexuels, qui ne sont pas tous déjantés, même s'il y en a quelques-uns quand même qui sont aussi déjantés évidemment, grâce à Dieu, sont forcément féconds. Enfin, je veux dire, tout le monde est fécond, donc parce que tout le monde est unique. Enfin, voilà. En tout cas, je pense que le fait de penser en termes de communion et de différence et non pas d'égalité, je pense que la communion, c'est supérieur à l'égalité, quoi. Et puis aussi accepter qu'il faut du temps, quoi. Et le temps est supérieur à l'espace. Vous connaissez cette expression un peu obscure du pape François. Il veut dire par là qu'on est toujours dans le rendement. On veut que ce soit efficace, quoi. Hein? Donc, il faut que demain, il y ait un résultat. Mais la vie, elle est toujours en croissance, parce que l'amour est toujours en croissance, c'est toujours en mouvement. Donc, tant qu'il y a de l'amour, du dialogue, de la communion, c'est que ça avance, quoi. C'est que ça vit.
Et je terminerai par les mots que nous laisse un des groupes. Quels mots nous viennent suite à notre partage? Humilité, joie, bonne disposition, discernement, comment peut-on être fécond, transmission à émotion, façon d'être et d'accueillir les autres, partage fécond. Donc, on insiste sur des dimensions humaines. L'humilité, c'est pas dire « je ne vaux rien ». L'humilité, c'est reconnaître sa juste place. Tu es humble. Quand tu ne penses pas que tu as la place de l'autre, ni celle du Créateur, ni que tu es moins que ce que tu es. Quand tu as ta juste place, tu sais la place que tu as et tu la tiens pour que les autres goûtent toute ton amplitude dedans de toi. Joie, savoir être communicateur de joie, bonne disposition, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce que j'ai puisse être objet de partage avec les autres. Transmission de soi, discernement, savoir... comprendre quand est-ce que je peux partager ce qui est mien, ce qui va faire que je vais grandir. Je connais un couple de jeunes hommes, ils ont acheté un hôtel-restaurant qui est un vieil hôtel-restaurant dans le Limousin qui datait du Moyen-Âge, qui a été repris à la Belle Époque et puis il fait littéralement depuis 10 ans. Ils l'ont repris, mais ils se sont dit officiellement associés. Ils ne savent qu'ils sont en couple que les gens proches qui peuvent les respecter. C'est une belle façon de faire aussi. Ils ont bien associé, pour pas choquer les personnes du petit village qui auraient pu très mal le prendre. Un discernement, je trouve, c'est ces jeunes, ils ont été capables de discerner comment se présenter pour pas choquer. Et il y a des gens maintenant dans le village qui discutent parce qu'ils ont compris et qui disent de toute façon pas très gentils, pas très corrects. Mais ça existe, on sait que ça peut exister. Mais leur façon de faire était très, je trouve, très, très belle d'arriver et se positionner de cette façon pour éviter. Au départ, ils avaient vécu dans un village... Comment ?
Et ils vont pas tous à la messe tous les dimanches.
Les gens qui les critiquent.
Tous ceux qui disent du mal.
Oui, non, pas forcément. Ah bon, en plus, ça qui est bien. Mais c'est marrant parce qu'ils étaient pratiquants. Avant, ils étaient dans un village du sud-est de la France et ils avaient un petit restaurant seulement. Et ils étaient aussi à leur paroisse comme des bons cuisiniers. Ils faisaient tout le repas paroissiaux. La mère, qui était républicaine, anti-mariage pour tous, tellement qu'elle les aimait, elle leur avait dit « Le jour où vous mariez, je prends mon jour de congé, je vous marie. » Ils n'en revenaient pas. Et parce que ces jeunes étaient tellement justes avec ce qu'ils étaient et qu'ils ne faisaient pas d'étalage, elle les trouvait tellement gentils, ils faisaient des bons repas paroissiaux, elle disait, ben, ils sont comme nous. Je suis contre au niveau idéologique, mais les gens que je connais à côté de moi, c'est pas pareil. Voyez, c'est pour ça que c'est aussi entendons cette capacité qu'on a à faire en sorte de, d'aider les gens dans leur discernement à bouger leurs cartes. Voilà.
Non, mais ça veut dire aussi que, tout simplement, enfin, il faut commencer d'abord par découvrir les personnes. Enfin, je veux dire, une personne homosexuelle, c'est d'abord une personne.
Enfin, tout à fait.
Avec son histoire, avec son, etc. Par rapport à l'humilité et le, etc. Moi, j'aime beaucoup le... J'aime bien la littérature, vous avez compris ça. Mais la finale du journal du curé de campagne, de Bernanos, hein, il dit... il ne sert à rien de se haïr la grâce et de s'oublier... Et quand tout orgueil aura disparu en nous, la grâce des grâces sera de s'aimer humblement comme l'un des membres souffrant du corps du Christ. C'est vraiment très très beau ça. Il sera à rien de se haïr, la grâce est de s'oublier. Et quand tout orgueil aura disparu en nous, la grâce des grâces sera de s'aimer humblement comme l'un des membres souffrant du corps du Christ.